Véronique Jacquier est avec nous. Bonsoir Véronique, soyez la bienvenue.
Bonsoir à tous.
Michel Fayad, analyste politique, est avec nous. Louis de Ragnel qui a beaucoup de choses à dire sur ce budget.
Thierry.
Bonsoir Louis de Ragnel. Patrick Vignal au summum de sa forme, ancien député Renaissance. On vous attend évidemment. On négocie jusqu'au bout, c'est ce que nous disait notre ami Olivier Benkemoun, puisque c'était prévu à 18h et c'est 18h30.
On négocie avec le Parti Socialiste surtout. Ah, oui. Parce que le Parti Socialiste peut sauver Sébastien Lecornu, le Parti Socialiste peut sauver le gouvernement en cas de 49-3 en ne votant pas la censure. L'enjeu, il est là, c'est le seul enjeu. Soit on passe par le 49-3, soit on passe par les ordonnances. Vous savez qu'avec un 49-3, eh bien, on peut y ajouter des amendements, donc on peut rajouter des petites choses qui sont en train d'être négociées, très franchement. Mmh. Ensuite, motion de censure, effectivement, mais si elle n'est pas majoritaire, eh bien, Sébastien Lecornu reste. En revanche, si le gouvernement tombe avec un 49-3, le budget tombe également, ce qui n'est pas le cas pour les ordonnances. Les ordonnances, c'est un peu l'opération suicide, l'opération kamikaze. On lâche tout, mais...
On va revenir sur les ordonnances, parce que c'est du jamais vu en plus, hein,
non,
si c'est le cas. Hein.
Non,
on va y revenir dans quelques instants.
Les ordonnances, ça serait un échec, ça serait une censure, mais le budget reste. Le budget qui est à ça, c'est très important.
Allez, on va prendre la température, si vous le voulez bien, ce soir, sur Europe 1 et sur CNews. On va prendre la température du côté de Matignon. On va retrouver du Netangour, Olivier Gangloff. Alors, visiblement, Dunia Tangour, on le disait, c'était une intervention prévue aux alentours de 18h. Est-ce que vous avez ces mêmes informations, plutôt 18h30, Sébastien Lecornu? Ça veut dire que on essaie d'ajuster jusqu'au dernier moment les choses, ma chère Dunia?
Oui, cher Thierry, il faudra s'armer d'un peu de patience. Il s'agit juste d'une demi-heure de retard. En tout cas, oui, je vous ai entendu en pato. Il est peut-être question pour le Premier ministre de réajuster quelques éléments de son discours. En tout cas, on sait qu'il y a deux options constitutionnelles qui sont en sa possession, le 49-3 ou ces fameuses ordonnances. Mais ça reste quand même deux passages en force qui font redouter quand même une possible motion de censure. J'entendais mon confrère Olivier Benkemoun dire que c'est vrai, ce qui est important à mettre en avant, c'est cette négociation avec les socialistes, parce qu'on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu il y a quelques mois, que tout est entre les mains des socialistes, parce que souvent les motions de censure, ils ne les votent pas, et pour Sébastien Lecornu, il est important pour lui de les convaincre avec ce qu'on appelle, nous journalistes politiques, des concessions, petites concessions ou grosses concessions. Tout cela dépend de là où on se place. Il y a cette mesure, en tout cas, qui a été négociée et obtenue de la part des socialistes, ce repas universitaire à 1 euro. Mais cela ne va bien sûr pas suffire, il en faudra d'autres. Et c'est peut-être pour cette raison que le Premier ministre a décidé de prendre un peu plus de temps pour finalement parvenir à un accord, non pas un compromis, mais un accord. Une chose est sûre, c'est que le gouvernement veut jouer ses dernières cartes ici. Et il faut être quand même précis et ne pas se précipiter et prendre un peu plus de temps s'il le faut.
On a bien compris. On va suivre et on va vivre tout cela avec vous, Dunia Tangour, avec Olivier Gangloff depuis Matignon. Alors, David Poujol, qui prépare cette émission à mes côtés, vous savez, c'est la boîte à archives. On a sorti la boîte à archives. Regardez ce que disait Sébastien Lecornu. Ça vous fait sourire, évidemment, Véronique Jacquier. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne voient pas votre beau sourire. Mais je suis sûr que ça va vous faire, évidemment, réagir. Écoutez ce que disait Sébastien Lecornu. C'était en octobre dernier, très précisément. Je crois que c'était le 3 octobre, me semble-t-il.
J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie.
Bon, Patrick Vignal, on a sorti la boîte à archives.
Ouais, mais je vais vous dire, enfin, franchement, ça sert personne. Au départ, il a raison. Il estime qu'il peut avoir une majorité de gens qui ont envie de penser à la France, aux Françaises et aux Français. Véronique l'a dit, c'est pas le cas. On est une classe politique, une partie qui est en ruine. Les gens pensent ou à leur élection ou à un intérêt partisan. Aujourd'hui, on fait quoi, Thierry? Il faut bien un budget, il faut bien payer nos fonctionnaires, il faut bien trouver les 4 millions pour aider l'Ukraine qui est envahie par la Russie. Donc à un moment donné, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je veux juste qu'il explique, qu'il dise que lui, il aurait aimé avoir un compromis. Et je peux vous rejoindre sur un fait, cher monsieur. En fait, on n'est pas fait pour faire du compromis en France. Donc ce soir, un, il faut qu'ils disent que c'est le budget qu'ils assument et pas les oppositions. Comme ça, nos amis PS seront capables de dire, et LR, je voulais pas le voter, comme ça, ils trahissent pas leur électeur. Et après, qu'il y ait une non-censure. C'est 14 milliards si on retourne aux urnes. Et le dernier point qu'on n'a pas évoqué, Thierry, vous imaginez une élection législative en même temps que les municipales? Mais les maires, ils sont amenés à 80%. Les maires, ils sont dans le quotidien. Et vous allez polluer les élections municipales avec des législatives où vous risquez de retrouver, comme c'est le cas à Montpellier, des candidats qui sont en face pour des législatives et ensemble pour des municipales. Il faut arrêter la gabégie. On fait un 43, une non-censure et on réglera le problème en 2027.
Je vous propose d'écouter, et on poursuit le débat, mais pour enrichir le débat, la déclaration d'Éric Coquerel, justement. Écoutez Éric Coquerel.
Le gouvernement a interrompu de manière vraiment scandaleuse les débats à l'Assemblée parce que les débats allaient tellement vite, eux qui accusaient les oppositions de ralentir les débats, qu'ils ne savaient plus comment imposer leur coup de force. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est dont il est question. Que monsieur le cornus méfie, parce que les ordonnances, si jamais il y avait recours, à mon sens, c'est non seulement la démission de la censure de son gouvernement automatique, et derrière ça, que monsieur Macron se méfie, parce que je pense que serait remis au goût du jour la motion de destitution de manière, à mon avis, encore plus prégnante.
Ce qui est sûr, c'est que LFI et le RN sont dans une position où ils n'ont pas bougé. C'est certain. Donc, entre les deux, il est évident que RN et LFI vont voter à censure, ne sont pas d'accord, ont voté parfois des amendements et parfois ont pris des positions en commission et ont voté exactement le contraire. Lors des débats, donc ça mériterait d'ailleurs d'être analysé. Et c'était l'exemple que a pris d'ailleurs tout à l'heure le ministre des relations avec le Parlement, qui disait le RN a voté contre la hausse ou le maintien même des budgets pour les communes
de 4,9 millions.
Voilà, 4,9 millions. Mais qui, très franchement, si vous prenez individuellement, personne n'est contre la baisse de ce budget. Très franchement, donc il y a des choses qui sont incohérentes. Mais LFI comme le RN sont restés dans leur couloir. Évidemment, ils ont l'impression qu'on a volé le débat, etc. Il s'est interrompu. En réalité, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'accord. Ça a été la cour de récré, ça a été un amoncellement d'amendements qui étaient plus fous, plus dingues les uns que les autres. Il faut regarder ce qu'ont été ces débats. On a parlé au début de budget Frankenstein, mais c'est pire que ça. C'est pire qu'un monstre qui est sorti de tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça? Donc, une boule de papier, vous jetez à la poubelle, puis vous reprenez les choses, vous dites c'est pas possible. Je vous ai dit que j'allais faire pas utiliser le 49.3. Aujourd'hui, je suis arrivé au bout de tout ça, et on n'en est pas capable. Et
je disais, Véronique Jacquier, on a le sentiment que c'est un immense gâchis, parce qu'on se dit mais tout ça pour ça, pour en arriver là.
On voit bien que les discussions sur le budget ne sont pas à la hauteur des enjeux, quoi qu'il en soit. On a plus de 3 300 milliards de dettes. Il y a eu en 3 jours 3 400 amendements déposés, 210 adoptés, dont notamment, ça c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on en avait parlé, le rejet de la fiscalisation des indemnités perçues en cas d'affection longue durée. Voilà, la gauche a obtenu cela. Mais sinon, on a par exemple un amendement voté, la taxe sur les petits colis, ramenée de 3 à 2 euros. Non mais vous voyez sur quoi on discute pendant des heures. Alors que la France est au bord du gouffre et que le budget est toujours pas capable de faire des économies sur son mode de fonctionnement et que en deux quinquennats d'Emmanuel Macron, bientôt, on est à plus de 180 000 fonctionnaires. Enfin voilà, c'est-à-dire que les sujets de fond, les sujets qui structurent une société, qui structurent une nation, on les aborde toujours pas, et là on discute finalement de l'écume des choses à longueur de journée.
Et puis on a des Français qui nous regardent et qui nous écoutent sur Europe 1 et sur CNews, ils se disent mais quand est-ce qu'on va apporter des réponses à nos problèmes?
Non mais là c'est fini, d'ici 2027 il ne se passera rien, et si la campagne présidentielle est à la hauteur des enjeux, à moi la peur.
Est-ce qu'on a seulement parlé des dépenses? Est-ce qu'on a parlé des recettes sans arrêt? Est-ce qu'on a parlé des dépenses?
Non, parce que les débats ont été interrompus tout à l'heure. Mais en fait, en 2027, la dette de la France représentera 120% du PIB. Ouais. 120% à cause de toutes ces dépenses. Donc en fait, c'est le stade où était la Grèce en 2008, quand elle a fait faillite. Donc en fait, en 2027, vous nous dites d'attendre 2027, eh bien on attendra 2027 et à ce moment-là, la France sera dans exactement au même niveau que la Grèce en 2008, c'est-à-dire en situation de faillite, en situation que si on retombe dans les mêmes travers qu'on a eu ces dernières années, eh bien de ne pas de chercher des compromis alors qu'il faudrait pas de compromis, de ne pas décider alors qu'il faudrait décider. Eh bien, se retrouver à devoir accepter que le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne interviennent pour sauver économiquement la France et décider à notre place. Parce que c'est ça
depuis
ce que ça
veut dire. Depuis qu'un cher monsieur, Patrick il y a un budget en équilibre de l'État, depuis quand?
Depuis des lustres.
Ok.
Donc, mais c'est ce que nous avait promis. Mais un instant, c'est ce que nous avait promis Emmanuel Macron, le Mozart de la finance. Il nous avait promis un budget.
À mon avis, vous partirez pas en vacances avec Emmanuel Macron.
Non, mais il nous a promis.
Mais je ne suis pas certain que c'était l'intention de Michel Fayette, si j'ai besoin de me rassurer.
Il nous a fait des promesses.
Écoutez-moi.
Vous avez voté pour lui, vous avez même été un de ses députés. Donc en fait, vous voulez pas assumer ce soir.
Mais non, attendez, alors s'il y a quelqu'un qui assume, c'est bien moi.
Patrick Vignal. Allez, la réponse de Patrick Vignal, Michel Fayette.
Patrick Vignal, attendez, on peut pas, je vais pas tout prendre sur les épaules.
Bon, Saint-Patrick.
Moi, je vous fais juste un truc. Sous Nicolas Sarkozy, 600 milliards d'augmentation.
Non, mais on s'en fiche tout ça. Vous êtes
Michel Fayade.
Un garçon,
vous êtes Michel Fayade. Ne parlez pas en même temps, les auditeurs et les téléspectateurs ne comprennent rien.
Non, mais moi je parle d'Emmanuel Macron et de maintenant, il veut nous ramener il y a 20 ans.
Mais monsieur, je ne vous ramène pas il y a 20 ans.
Je vous dis Nicolas Sarkozy, c'est 2007, c'est 19 ans.
Je vous dis des faits concrets. Vous estimez qu'on est à 3 000 milliards de dettes, vous avez raison, c'est plus possible. Premier point. Second point, le temps de Nicolas Sarkozy, c'est 600 milliards. D'augmentation. Le temps de François Hollande, dont j'ai parti de la majorité François Hollande, c'est 400 milliards. Emmanuel Macron, c'est 1 300 milliards. Je veux juste enlever dedans les 500 milliards du quoi qu'il en coûte. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron a fait comme les autres, il a augmenté encore la dette.
Mais Nicolas Sarkozy, il y avait la crise financière de 2008 quand même.
Et nous, on n'avait pas le Covid. On n'avait pas la guerre en Ukraine.
Le Covid n'était pas obligé d'être tous d'accord pour le quoi qu'il en coûte.
Là où je pourrais être d'accord avec vous, en fait, le problème, c'est que...
Mais là, vous êtes dans le constat, vous ne proposez rien, vous ne dites rien.
Mais je peux finir.
Oui, mais c'est de l'analyse, vous êtes un politicien, vous devez nous donner des vraies solutions. Là, c'est vide, excusez-moi, mais c'est vide.
Vous êtes en train de...
Écoutez, Michel Fayet, on laisse Patrick Vignal s'exprimer
parce qu'on comprend rien. Je vous explique que jusqu'avant Emmanuel Macron, les autres ont fait pareil. La différence qu'Emmanuel Macron, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron a cru qu'on pouvait changer la France sans s'appuyer sur les corps intermédiaires et sur les maires et sur les entreprises. Voilà ce qui nous a manqué. Et le deuxième point, le nouveau monde, la team entreprise, ça ne marche pas. Le troisième point, je l'ai voté, je le regrette, c'est le cumul des mandats. Quand vous avez un maire qui est parlementaire, il sait de quoi il parle. Alors que là, on a eu des députés. Et regardez, les nouveaux députés... Oui, mais c'est pour ça que... Vous savez, le problème, on parle de constat. Moi, je m'en fous du constat. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain pour notre jeunesse?
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Mais c'est demain, cher monsieur. Et aujourd'hui, pensons aux 30 ans qui arrivent.
Quel gâchis,
vous êtes en train de me parler de matin. Je vous parle de vos enfants dans 20 ans, 30 ans.
Mais donc, qu'est-ce qu'on fait?
Comment on change la politique?
Donc, vous nous avez
comment on fait
gâcher
péter le système?
Vous nous
comment
avez
on vire
fait
toutes les agences qui servent à rien? Voilà ce qu'il faut faire ensemble.
Donc, vous nous avez fait gâcher 9 ans.
Michel Fayade.
Non, mais la conclusion, monsieur.
J'entends.
Et qu'est-ce que vous attendez pour vous présenter, vous? Vous êtes un garçon brillant. Prenez comme moi des affiches de la colle, allez-y.
Allez.
Jetez-vous dans le bain, Michel, alors.
Si ça vous dérange pas, on va éviter le débat uniquement entre Patrick Vignal et Michel Fayade.
C'est les deux ceintures noires
du plateau. Donc évidemment, vous
faites... Ah, il est grand, il est une grande taille.
Oui, parce que je le dis aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews, ils sont tous les deux ceintures noires de judo. Donc je suis évidemment, vous avez raison de le rappeler, très prudent pour les séparer. Vous voyez? Parce que moi, je suis ceinture.
Vous aiderez, Thierry.
Ceinture blanche dans l'histoire. Louis de Ragnel, très concrètement, reprend le sens de nos débats. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce soir, le Premier ministre? À quoi peut-on s'attendre?
Par rapport à ce que je souhaite...
Je me mets à la place de nos spectateurs et de nos auditeurs.
Non, mais ce qu'il devrait dire, probablement, c'est, voilà, on s'est donné du mal, tout le monde n'a pas forcément joué le jeu, mais jusqu'au dernier moment, on a essayé de bâtir des compromis, ça y est, on y est parvenu, on va avoir un accord de non-censure, alors le 49-3, je pense qu'il l'annoncera peut-être pas tout de suite, il va dire jusqu'au dernier moment, on va essayer de se laisser la possibilité de négocier. Le 49-3, de toute façon, doit être décidé en Conseil des ministres, donc qui aura lieu sans doute dans le courant du week-end, et mardi prochain, ce sera le
c'est ça le calendrier février, selon vous?
Je pense, voilà. Bon, après, je suis pas sûr que ça passionne tout le monde, compte tenu de la. En fait, on est à l'agonie institutionnelle et politique de ce budget, donc je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. En revanche, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Michel Fayade, et c'est une musique aussi qu'on entend beaucoup. Tout le monde dit, enfin beaucoup de gens disent, on attend 2027. 2027 sera forcément mieux. Mais alors, je veux pas du tout doucher les espoirs, mais on s'accroche un peu tous à cette marotte. Oui. Mais je suis pas certain de ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre de très très mauvaises habitudes avec un budget qui n'est pas voté. Bon, c'est pas très grave. Il y a un certain le budget qui est normalement l'émanation du gouvernement pour fixer un cap et une priorité politique. Oui. Eh bien maintenant, c'est plus du tout à la main du gouvernement. C'est à la main à peu près de tout le monde.
Je suis d'accord,
on sait même plus qui décide.
De pas attendre 2027.
Personne. Non, mais ça va être la première fois où personne. Attendez, laissez-moi terminer. C'est la première fois où personne ne va pouvoir revendiquer ce budget. C'est le budget de personne, c'est celui de tout le monde. Personne n'est content, personne n'est satisfait. Et je crains qu'en fait, on soit en train de vivre une forme de glissement. Ce que je trouve extrêmement inquiétant et que j'ai trouvé pathétique pendant l'examen de ce budget, c'est qu'on est en train de glisser vers une culture du détail. On est en train de, on n'est plus du tout sur le cap pour le ministère de la Santé. Le ministère de l'Intérieur, les grands budgets de l'État. Et ce que je trouve vraiment dommageable, c'est que maintenant, on ne sait même plus dans quoi rentre tel ou tel budget, telle ou telle mesure, parce que tout est dans le micro-détail. Et l'inquiétude plus globale à terme, c'est qu'on est vraiment... je le regrette profondément, c'est que tout est dans la défense d'intérêts catégoriels, où mon voisin a ça, donc je veux la même chose que mon voisin, et il n'y a plus aucune notion d'intérêt général et de vision du pays. Et ça, pour le coup, c'est la faute des exécutifs qui à chaque fois ont regardé des sondages, parce qu'en fait ils gouvernent avec des sondages, et ils disent tiens, si je donne 2 euros de plus à des étudiants, bien ça peut satisfaire des électeurs PS. Sauf qu'à la fin, la dictature de la gouvernance par les sondages, vous finissez par plus personne ne comprend rien, il y a plus de couleur politique à ce que vous faites, et c'est le gouvernement par la lâcheté, puisque si vous êtes élu, Si vous, Thierry, demain, vous êtes candidat à la présidentielle, si on décide de voter pour vous, c'est parce que vous avez un projet politique à proposer. Un projet global, et j'ose espérer, où vous avez une vraie vision. Le problème, c'est que si vous faites à chaque fois, à travers les sondages, vous gouvernez à travers les sondages, ça se heurtera forcément à la vision que vous aviez imaginée pour le pays. Et donc, à la fin, vos électeurs seront déçus parce que vous ne les satisferez pas. Vous aurez essayé de satisfaire tout le monde, ça coûte les yeux de la tête parce que ça rentre pas dans l'équilibre budgétaire dans votre équation. Et à la fin, on se retrouve avec une ZAD, parce qu'en fait, notre pays est devenu une ZAD politique et institutionnelle, avec il n'y a plus rien qui fonctionne.
C'est vrai que ça me parle, la ZAD, hein. Vous parlez à un antenne.
Oui, je sais bien. Et moi, c'est ça que je trouve très, vraiment, vraiment préoccupant. Institutionnellement, il n'y a plus rien qui marche. On fonctionne dans la carcasse de la Ve République. Et vous voyez bien qu'il n'y a plus rien qui marche, à part avec des 49-3, avec des recours systématiques au Conseil constitutionnel, avec le Conseil d'État qui est devenu le SAV juridique de la politique de la France. Et donc, c'est une dépossession du politique. Le politique, normalement, c'est celui qui décide. Maintenant, tout est juridique, et c'est le juridique qui commande le politique. Et je pense que tout l'enjeu de la prochaine élection, l'élection présidentielle, c'est retrouver le pouvoir. Il faut redonner le pouvoir véritablement et montrer qui commande. Parce que moi, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se sert de la carcasse et des attributs de la Ve République pour donner l'impression d'avoir le pouvoir sur les grands enjeux du monde. Certes, il a la main sur les armées puisque c'est la Constitution qui lui permet. Certes, il a un certain nombre de prérogatives en tant que président de la République. Mais le fondement, ce qui fonde sa légitimité, son autorité, il s'en est dépossédé parce que ça ne l'intéressait pas et parce qu'il s'est dit ça va faire plaisir aux oppositions, machin et tout.
Non, parce donc, qu'il a aujourd'hui, vu la France comme une start-up.
Exactement. Donc ce qu'il faut, l'enjeu, c'est redonner le pouvoir, retrouver le pouvoir, et donc donner le pouvoir à quelqu'un, ça veut dire le retirer à d'autres.
Et il faut une incarnation aussi. Hein. Il faut une incarnation, Louis de Ragnel.
C'est indispensable.
Eh ben oui.
C'est la vraie analyse.
Patrick Vignal.
Une femme ou un homme qui porte un projet qui s'est rassemblé. Vous savez, la difficulté, le constat, je le partage à 100% avec vous. Est-ce que vous pensez qu'en 2027, on aura un Parlement qui sera majoritaire? J'aimerais qu'il y ait un Parlement qui mette en œuvre les propositions du programme du président. Mais très franchement...
C'est pour cela qu'il faudrait ce que je disais tout à l'heure, une élection à un tour.
Attendez, mais ce que je pense, effectivement, c'est qu'il y aura encore du tripartisme. Le Rassemblement national est fort, LFI est fort, sera encore fort, et on aura un bloc central. Donc on va se retrouver.
Rien ne changera. Ben, je suis... ben, si ça reste en l'état, ben, pourquoi voulez-vous que ça change ?
Thierry, je suis inquiet.
Non, mais, Véronique Jacquier, voilà. Parce qu'elle a demandé la parole, je vous donne la parole juste après Olivier Benkemoun, évidemment.
Oui, non,
Véronique
Jacquier. Pour compléter ce qu'a dit Louis de Raguenel, quand on dit qu'il faut retrouver vraiment le pouvoir, ça passera forcément par une incarnation qui accepte quelque part de remettre le compteur à zéro, c'est-à-dire de retrouver vraiment l'esprit de la Ve République. Pour rejoindre ce qu'a dit Michel Fayade, c'est Michel Debré, le grand architecte de la Constitution de la Ve République. Il était pour le scrutin à un tour. Il était aussi, non pas pour un quinquennat, mais au départ, pour un, même pas un septennat, pour un... Comment on dit, pour une présidentielle qui, enfin pour un mandat présidentiel, pardon, qui aurait duré 10 ans, évidemment non renouvelable. C'est-à-dire à l'époque, les leçons qu'on tirait de tout ce qui n'avait pas marché avant et qui passait forcément par un pouvoir fort avec une majorité, mais avec aussi pour réformer le pays et le stabiliser, il faut du temps long. Et puis surtout, on pense à l'intérêt général, c'est-à-dire on est capable de refaire la France.
On est tout le temps dans le micro-détail.
En permanence,
c'est micro.
Le procès de toute la façon dont on défait la France à longueur de journée, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les prisons, que ce soit pour la justice, que ce soit pour la sécurité. Donc on se rend bien compte qu'à un moment, il faut remettre le logiciel à zéro pour le faire repartir. Mais je pense que c'est un enjeu de la prochaine présidentielle que de se dire... Qui peut respecter fondamentalement l'état des, enfin.
Mais c'est ce que je disais, une incarnation.
Des institutions de la Ve République. Sinon, on va encore descendre de plus en plus bas.
La Constitution 1958, il faut revoir. Les chaînes d'infos qui sont arrivées, le narco-Afrique, enfin, tout a changé. Ce monde
on peut garder les piliers
vite,
de la Ve, on n'est pas obligé de passer au 6e.
Mais encore une fois, Véronique, vous trouverez l'incarnation.
Bah, je sais pas.
Bah non. Ah bah la preuve.
Il y aura bien un président.
Bah vous la voyez.
Non, on parle plus de primaire. Vous savez, quand il y a une incarnation, on parle plus de primaire.
Non, vous êtes d'accord.
Ça s'appelle l'autorité naturelle.
Il y aura un président ou une présidente en 2027, quand même. Il y en aura un.
Bah, on espère.
Ça fait trop longtemps qu'on vote pour
sans quoi,
gens.
Il ne peut pas en être autrement.
Ouais, on vote de plus en plus par défaut, en fait. On vote plus pour une adhésion à un programme. Moi, ce qui me gêne, et là, je pourrais rejoindre Michel Fayat, est-ce qu'il faut qu'on ne te fait qu'à un tour un parlementaire? Parce que moi, je vous fais un pari à tous que vous verrez, il n'y aura pas une majorité. Du Parlement.
Bah c'est pas très encourageant ce que vous dites.
Oui, et bien je sais pas comment.
Si on tombe dans le même système, ça va être la même pagaille.
Je vous propose de régime.
Je vous propose d'écouter Laurent Panifous, qui était notre invité dans Midi News, à qui je posais la question de savoir à quoi peut-on s'attendre ce soir avec l'intervention du Premier ministre. Lui qui est ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, c'est lui qui a sifflé la fin de la mi-temps hier soir à l'Assemblée nationale en disant bon, voilà.
On arrête.
Et c'est pour ça qu'il était intéressant de l'entendre. Alors lui, il le dit aussi d'ailleurs, il l'a avoué. Ça, si on a un budget, ce ne sera pas un budget très satisfaisant, mais l'important c'est d'avoir un budget. Mais écoutez ce que disait Laurent Panifous ce midi.
Bon, l'idée ce soir sera probablement d'exposer le fond, expliquer pourquoi hier soir j'ai annoncé aux députés dans l'hémicycle qu'on mettait un terme au débat parce que nous ne pourrions pas arriver au vote, parce que le texte était devenu invotable. Donc je pense qu'il est important que, ayant annoncé cela, le Premier ministre puisse dire pourquoi. Et du coup, les deux chemins qu'il nous reste, à savoir, vous l'avez dit, ou la voie du 49-3, ou la voie des ordonnances, parce qu'au-dessus de tout, au-dessus des questions de censure, de dissolution, je ne sais trop quoi, la chose la plus importante pour nous tous, c'est qu'il y ait un budget. En fait, l'idée de chacun, c'est on veut de la stabilité, pas la stabilité pour la stabilité. Oui, pas à n'importe quel prix. Mais le budget de compromis est un budget acceptable. Mais le budget de compromis, c'est mieux que pas de budget. La loi spéciale, le régime sous lequel on est en ce moment... ne pourra pas durer. C'est-à-dire, il y aura des conséquences économiques qui seront catastrophiques si on reste sur le régime de la loi spéciale pendant plusieurs semaines encore, voire plusieurs mois.
Olivier Benkemoun, je trouve terrible ce que dit Laurent Panifous. Ouais, il faut un budget. Oui. Coûte que coûte, il faut un budget. Mais oui, mais on met quoi dans ce budget? Et il nous dit, en gros, il y aura un budget. Il ne sera pas satisfaisant, mais il y aura un budget. Ce n'est pas très rassurant pour les Français qui nous écoutent sur Europe et sur CNews.
Il faut un budget pour payer les fonctionnaires, il faut un budget pour payer les policiers, il faut un budget pour augmenter ce qui est prévu dans la loi de programmation militaire. Il faut un budget. Et tout à l'heure, Louis le disait, Emmanuel Macron veut un budget, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de ce budget. Moi, ce que je voulais simplement dire ce soir, c'est que on est en train d'assister à une grande victoire politique de Sébastien Lecornu. Si on prend individuellement Sébastien Lecornu, il a réussi toutes les manœuvres. Ça devait être le Premier ministre le plus court de la 5e, même 48 heures. Il réussit encore à être là. Il a réussi à décoller le Parti Socialiste du NFP. et de LFI. C'était pas rien. C'était pas gagné non plus. Ça aussi, c'est une victoire. Et il va réussir à durer. Et il sera là dans quelques mois. Budget, il ne sera pas censuré, puisque là, on est ce soir sur un accord avec le PS. La réalité, c'est que ce soir, on est avec un accord de non-censure avec le Parti Socialiste. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de concessions qui étaient faites. On va voir sans doute que Sébastien...
Ça dure,
d'ici une dizaine de minutes, va nous donner des détails. Dans un instant, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire, eh, bons élèves, mauvais élèves. Il y a ceux qui nous disent des choses dans le bureau, puis qui font tout à fait le contraire. Il y a ceux qui ont joué le jeu, Liot, le Bloc Central, etc., le Parti Socialiste, et puis il y a les grands méchants. Voilà. Voilà ce qu'il va nous dire dans un instant. J'ai essayé de faire le jeu, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un compromis, il n'y en a pas, on passe à la phase suivante. Mais voilà ce qu'il va nous dire. Mais ce soir, il sera encore là, et la semaine prochaine, il sera encore là, et Sébastien Lecornu, de mon point de vue, semble être le grand politiquement gagnant. Et c'est le dernier soldat, je vous rappelle, le dernier grand soldat macroniste.
C'est les qualités qu'on lui donnait, hein, d'ailleurs. Un homme d'écoute, fin tacticien, etc. C'est ce qu'on a dit dès le départ, lorsqu'il a été nommé à ce poste, Guido Ragnel, si je n'ai pas vu.
Et celle de ne pas avoir d'autre ambition que celle de Premier ministre. Mmh. Et il n'est pas exclu que ça finisse par lui donner des idées.
Peut-être.
Moi, vous savez, c'est le syndrome de tous les premiers ministres. Mmh. On verra.
Patrick Vignal.
Moi, je ne sors pas mon joker ce soir, mais vous avez raison.
Non, allez-y, vous êtes là pour tout nous dire.
Mais oui, non, mais je pense que Sébastien Lecornu, je vous l'ai dit, c'est un bon manœuvrier. À la fois, il a été élu local très jeune, président du Conseil général. Et vous savez, Véronique, il était obligé de passer par cette phase de négociation. Et je pense que oui, il fait partie de ces gens qui pourraient peut-être... Je vous dis le contraire, je vous dis. Il fait partie de ces gens. Il y a de la qualité, je suis désolé.
Oui, bien sûr.
Lecornu, Attal, Philippe...
Il y a quelque part de la patine...
Gérald Darmanin. Catherine Vautrin, on n'a pas que des baltringues, même si on a passé 180 ministres. Mais il y en a une partie, il y en a une douzaine.
C'est accablant, là, de votre phrase.
Ah oui.
Mais il y a 194 ministres.
Mais moi, j'ai pas de soucis, Louis.
Non, mais c'est énorme. Il a raison, Louis Ragnel, Patrick Vignal.
Ah ben ça, oui, elle est très libre.
Et dans la parole libre, je suis désolé, des gens comme Amélie de Montchalin, Roland Lescure, on aura besoin de gens qui savent de quoi ils parlent en 2027. Et bien, dans la Macronie, alors la Macronie, c'est Macron, hein. Donc moi, je ne parle plus de Macronie. Je parle qu'il y a des gens qui méritent. Je pense à des gens comme Aurore Berger. Je pense à la présidente de l'Assemblée qui ont acquis de l'expérience. Et pour 2027, si on a un candidat, il faudra qu'il s'entoure
de l'expérience. Vous êtes en train de nous faire un casting ce soir, là, sur CNews et sur Europe 1. Vous nous faites un casting, là.
Et Sébastien Lecornu fait partie des gens sur la ligne de départ. Voilà.
Non, je réponds juste à Patrick, vraiment rapidement.
Louis de Ragnel et Véronique Jacquet.
Je pense que les gens, les Français ont vu l'expérience, tout ça, on est à
vous
côté.
Vous n'y croyez plus ?
Non, c'est plus le sujet.
Bah,
non,
je suis mais pas sûr que les Français croient.
Non, mais ça fait 9 ans. Non, mais ça fait 9 ans. La question, c'est pas de savoir maintenant qui a les bons diplômes et tout ça. Ouais. Maintenant, c'est qui a la bonne vision pour mettre en œuvre une politique pour redresser le pays.
Donner un cap.
Et redonner du pouvoir.
Je vous le présenterai.
Mais moi, je vais vous présenter plein de gens ultra compétents, très bons dans leur domaine, mais qui n'ont aucun cap. Et c'est pas grave, ils sont pas faits pour ça. Simplement, vous avez un gouvernement qui ferait de très bons directeurs d'administration centrale, sauf qu'aujourd'hui, on cherche des ministres qui tiennent une administration. C'est pas le même job, c'est pas la même finalité. Oui. Un ministre, il donne le cap, la vision, il défend son budget pour mettre en œuvre sa politique auprès d'une administration. Et donc là, vous avez plein de directeurs d'administration.
Patrick Vignal, sortez dans la rue.
Moi, j'aime bien. Il n'y a que 10 sur 180 qui sont passés.
Patrick Vignal, moi, j'aime bien quand on prend le pouls dans la rue. Eh bien, citons, interrogeons des Français en sortant devant CNews et Europe 1 pour savoir quels sont les ministres qui comptent.
Alors, mais c'est le 15e, il n'aime pas le 15e.
Non, mais je vous réponds.
C'est le 15e, il n'aime pas le 15e.
Moins de 5. Quand je demande à mes gens, vous connaissez les ministres, ils me disent, on connaît Lecornu, on connaît Darmanin.
Et Patrick Vignal.
Non, mais franchement, on a
non, mais sincèrement, on est d'accord là-dessus?
Mais bien sûr. Et le deuxième point, ce que dit Louis, vous savez, quand j'ai voté ma loi, changement de nom, issue de la filiation, l'administration ne voulait pas que je la vote. Et j'ai dit à l'administration, je suis politique, j'ai été élu, c'est moi qui ai le pouvoir. Louis a raison, on a laissé trop à l'administration le pouvoir, mais c'est normal. 9 ministres de la culture, l'administration, heureusement qu'elle est là. Vous êtes d'accord avec ça au moins?
Mais moi, je défends l'administration.
Oui,
non, mais là, on a besoin d'une administration. Ouais. Simplement, moi, quand j'entends un président de la République, un premier ministre ou un ministre qui me dit c'est pas moi, c'est l'administration, il doit faire autre chose. Il s'est trompé de métier.
Il s'est trompé de métier, je suis d'accord.
Le politique n'est là que pour diriger une administration au service du pays pour un projet politique. C'est tout. Là, un ministre qui dit ah, je suis dépassé, mon administration, ah, c'est pas de ma faute, c'est l'administration. Mais attendez, si l'administration, c'est qui au-dessus de l'administration
sur ça, tout le monde est.
Et je rappelle que vous êtes sur Europe 1 sur CNews. Je rappelle que vous êtes sur Europe 1 sur CNews. Nous sommes en édition spéciale dans l'attente de la prise de parole de Sébastien Lecornu qui, en octobre dernier, déclarait ceci. Je vous propose de l'écouter.
J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie.
Eh oui, donc pas de 49-3, Véronique Jacquier, c'était en octobre dernier, et changement de discours potentiellement, puisque c'est ordonnance ou 49-3.
Symboliquement, pardonnez-moi l'expression, mais à l'époque, il s'est mis à poil, quoi. Il s'est mis à poil parce qu'il s'est désarmé en tant que Premier ministre, et même constitutionnellement, c'est... Enfin bon, oui. ça pose question.
Mais c'est terrible le constat,
non, mais,
là.
Et puis il a donné les clés de la maison aux socialistes.
On rappelle le nombre de socialistes à l'Assemblée.
À la dernière présidentielle. Non, mais et donc là, il se rhabille. Alors, il se rhabille, il met des beaux habits pour faire Premier ministre. Mais bon, comme on l'a déjà évoqué, c'est de la tambouille. Tout à l'heure, Amélie de Montchalin a parlé de saboteurs, en parlant de ceux qui ne voulaient pas de ce budget.
Elle visait LFI et RN. Hein.
Mais c'est quand même la grosse magouille, pardonnez-moi, puisque on l'a aussi évoqué, c'est finalement Emmanuel Macron qui siffle la fin de la récréation, qui dit « moi je veux un budget, je ne veux plus perdre la face sur la scène internationale, voilà, je veux pérorer en disant que nous sommes en guerre », parce que finalement, le costume qui lui va encore le mieux, c'est celui de chef de guerre, même s'il devrait être artisan de la paix en toutes circonstances. Et voilà, et son Premier ministre a quand même un boulot qui n'est pas facile par les temps qui courent, sans majorité, avec, comme l'a dit Louis Dragonel, un budget qui sera finalement le budget de personne, puisqu'il ne peut pas satisfaire qui que ce soit dans la situation financière dans laquelle est le pays.
Michel Fayad, je vous donne la parole, mais il est possible que je... Ah ben non, on va écouter Sébastien Lecornu, qui s'exprime.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rendre compte. Depuis le mois de septembre, j'ai tenu une ligne simple, faire fonctionner les institutions, respecter le Parlement avec une méthode nouvelle. Assumer les responsabilités, repousser le désordre, en un mot, apaiser, remettre du calme. Cela impose de la retenue, une volonté sincère de dialogue et une forme d'exigence collective. L'Assemblée nationale ressemble aux Français, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. Elle est le fruit de vos choix, elle reflète vos doutes, vos désaccords, pour ne pas dire parfois nos divisions, vos inquiétudes, mais elle dit aussi quelque chose de votre exigence à ce que vos responsables politiques travaillent ensemble, s'entendent, comme dans tant d'autres démocraties, comme d'ailleurs tout à chacun doit le faire dans sa vie personnelle ou professionnelle, comme le font des milliers d'élus locaux au quotidien dans les conseils municipaux. Pour sortir de la crise à l'automne dernier, j'ai pris un engagement clair. Ne pas gouverner contre le Parlement comme si la majorité était absolue. Ne pas gouverner comme avant, ne pas confisquer le débat budgétaire, ne pas utiliser le passage en force comme un réflexe. Obliger les formations politiques à repartir des contraintes réelles qui pèsent sur le pays pour travailler sur le fond. Et pour tout cela, déconnecter, je l'ai dit de nombreuses reprises, l'action du gouvernement, de tout agenda électoral à l'approche notamment de l'élection présidentielle. Cet engagement, nous l'avons tenu. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, vous le savez, a été longuement discuté, amendé, puis adopté par le Parlement. C'est un texte solide, il protège notre modèle social, il garantit l'accès aux soins, il engage des économies réelles, même si on le sait tous, elles devront être largement prolongées pour résorber le déficit trop important. Mais surtout, cet exercice unique depuis 2022 a permis de ramener du calme, de montrer que la démocratie parlementaire peut encore décider, que le travail des parlementaires peut aboutir à des choix politiques, même s'ils ne sont pas ceux d'un seul camp à la fin. Mais la situation est hélas bien différente pour les discussions sur le budget de l'État, après pourtant 350 heures de débat. Depuis Noël, celles-ci sont entravées. La commission mixte paritaire a échoué, le Sénat n'a pas trouvé de compromis avec l'Assemblée. Au sein même de l'Assemblée nationale, certains ont choisi le blocage, en commission des finances comme en séance. La France insoumise et le Rassemblement national, chacun à leur manière, ont bloqué ce travail et ont méthodiquement rendu le texte incohérent et donc à la fin invotable. Ce n'est pas une divergence de fond, c'est une stratégie cynique et profondément délibérée. J'avais fait le choix de laisser le pouvoir au Parlement de débattre puis de décider jusqu'au bout de la procédure. Je regrette qu'à cause de certains, quelques-uns, cela ne soit pas possible, comme ce fut le cas avec succès en décembre dernier pour le financement de notre sécurité sociale. Cette semaine encore, en plein milieu des discussions budgétaires, deux motions de censure ont été déposées par le RN et la France Insoumise sur le traité entre l'Union européenne et le Mercosur. Motion complètement déconnectée de la réalité, alors même que la France vote contre ce traité, alors même que la situation internationale exige de la visibilité, de la stabilité et du sérieux, alors même que le pays a besoin d'un budget. Pour autant, tout ne s'est pas arrêté ces derniers jours. De longues réunions de travail ont eu lieu, elles ont permis des échanges sérieux, souvent exigeants, avec des groupes parlementaires qui soutiennent le gouvernement, mais aussi avec des groupes qui sont clairement dans l'opposition au gouvernement. Avec, tout simplement d'ailleurs, pour résumer les choses plus simplement, des députés et des sénateurs qui veulent tout simplement faire leur travail. C'est par ce travail précisément de fond que nous avons pu malgré tout avancer. Et c'est ce travail qui permet aujourd'hui au gouvernement de proposer des évolutions importantes du projet de budget pour cette année 2026. Le budget doit dire ce que nous protégeons, ce que nous finançons, ce que nous réformons aussi, comment nous redressons nos comptes publics, faisons des économies sans casser le pays, sa croissance, dans la justice et dans l'équité. Je tiens à le dire, le gouvernement ne renoncera pas au compromis. Et nous continuerons de travailler avec les groupes parlementaires qui ont eu le courage de faire passer l'intérêt général avant leurs intérêts partisans. C'est le moment, au fond, de la grande clarification pour chaque force politique. Et pour le gouvernement, de tracer de nouvelles orientations budgétaires pour éviter tout blocage. Je n'hésite pas à dire que ce budget va être différent du budget initial. Il est meilleur, il peut rassembler et il est, je le crois, responsable. Il traduit des choix politiques, il n'obéit pas à la seule logique comptable, il conforte des engagements pour la France, il respecte le travail, les efforts et les attentes de nos concitoyens. D'abord, pour le pouvoir d'achat des travailleurs. Je l'avais dit lors de ma déclaration de politique générale, et si le budget pour la sécurité sociale a permis de sanctuariser les droits de celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui donc aujourd'hui sont à la retraite, le budget de l'État doit lui traduire une priorité claire, être du côté des travailleurs. Parce que c'est le travail qui doit augmenter le pouvoir d'achat des Français, et beaucoup de nos concitoyens qui font fonctionner notre pays, travaillent de nuit, font des heures supplémentaires, et pourtant gagnent le SMIC ou un peu plus que le SMIC. La solidarité nationale pour ses salariés des secteurs privés comme publics, d'ailleurs, s'exprime par un complément de revenus, c'est la prime d'activité. Le budget initial envisageait d'en réduire la portée. Il faut le reconnaître, c'était une erreur. Il faut donc non seulement revenir sur cette mesure d'économie, mais nous allons aller plus loin en réformant cette prime, car il faut que le travail paie plus. Plus de 3 millions de ménages qui gagnent le SMIC ou un peu plus que le SMIC seront désormais garantis de gagner plus à la fin du mois. Ils verront leur prime d'activité augmenter en moyenne de 50 euros par mois. C'était une demande clairement formulée. Le gouvernement s'y engage. Au-delà de cette mesure immédiate, attendue, importante, le gouvernement proposera dans les prochaines semaines une réforme des allocations de solidarité par la création d'une allocation sociale unifiée, protégeant mieux nos concitoyens les plus fragiles, tout en garantissant que le travail soit toujours plus rémunérateur, précisément que l'absence de travail. Reconnaître la primauté du travail justifie également que l'impôt sur le revenu n'augmente pas. Le barème sera ainsi revalorisé pour que l'inflation ne se transforme pas en augmentation masquée de cet impôt. Le soutien au travail, enfin, c'est la possibilité tout simplement de trouver un emploi, de conserver son emploi. Nous ne devons pas abandonner le combat contre le chômage. Nous faisons donc un choix important. Nous ne toucherons pas aux allègements de charges. Parce qu'augmenter les charges, c'est augmenter le coût du travail pour les employeurs. Et augmenter le coût du travail, c'est menacer l'emploi et donc notre économie. Et donc notre modèle social. Pour les mêmes raisons, nous continuerons à soutenir l'apprentissage des jeunes, en particulier ceux qui travaillent dans les PME. Là aussi, c'est une demande, elle a été entendue. Le budget de compromis que nous proposons protège donc celles et ceux qui travaillent et qui produisent. Cette ligne de bon sens, je le crois, doit pouvoir rassembler. Le travail permet aussi la solidarité pour les plus fragiles. Il n'y aura aucune mesure pesant sur les allocations pour les personnes en situation de handicap ou pour les allocations sur le logement, ce qu'on appelle les APL. De même, il n'y aura pas de réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités. Ainsi, et pour définitivement peut-être tordre le cou aux mensonges de certains, il n'y aura dans ce budget aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages, directe ou indirecte. Mais nous nous battrons contre la fraude, la suroptimisation fiscale et certains abus ou détournements de la loi. Chacun doit payer sa juste part, c'est une question de justice fiscale et l'attente des contribuables est forte, c'est un débat important pour l'avenir. Ensuite, ce budget doit donner une priorité à la jeunesse. Les bourses étudiantes seront maintenues. Pour tous les étudiants, le repas à 1 euro au restaurant universitaire sera une réalité à compter du mois de mai. Les universités et les organismes de recherche verront également leurs moyens renforcés pour respecter les engagements de la programmation pour la recherche qui a été votée par le Parlement. Dans l'éducation nationale, 2000 postes supplémentaires seront créés, notamment pour accueillir, et c'est une priorité, nos enfants en situation de handicap. Troisième priorité, elle est attendue, c'est le logement. Ce poste ampute de plus en plus le pouvoir d'achat des ménages. La construction de logements dans notre pays est insuffisante, ce qui n'est pas sans impact économique sur certaines filières comme la construction. Il faut donc des mesures d'urgence et des mesures structurelles. La construction et la rénovation de logements abordables est d'abord la responsabilité des bailleurs sociaux. Nous augmenterons donc leurs moyens de 400 millions d'euros pour qu'ils construisent plus et rénovent mieux. Mais nous ne devons plus opposer investissement public et investissement privé, comme ce fut le cas malheureusement depuis trop longtemps. Il faut donc aussi relancer l'investissement locatif privé. Nous poserons ainsi les bases d'un statut du bailleur privé. Nous maintenons par ailleurs MaPrimeRénov'. C'est un dispositif utile, efficace, mais nous lutterons davantage contre les abus et les détournements encore trop nombreux qui abîment la réputation du dispositif. Autre priorité, et vous le savez, nous en avons beaucoup parlé, c'est l'agriculture. Je confirme que les engagements pris par le gouvernement et la ministre ces derniers jours seront tenus et la crise que nous connaissons justifie d'ailleurs pleinement de ne pas voir les débats au Parlement s'enliser comme ce fut le cas cette semaine. Cinquième priorité, c'est la nécessité de réaliser des économies structurelles, justes, efficaces. L'État fait des efforts, sans démagogie et loin des idées pseudo-miraculeuses que l'on peut voir ici ou là dans la presse ou dans les débats. Mais la réalité, c'est que pour la première fois, les dépenses des ministères en euros courants seront inférieures à celles de l'année dernière. Clairement, cela sera dur et méritera un pilotage de chaque instant par les ministres. En parallèle, une réforme de l'État et de la décentralisation que j'ai annoncée nous permettre de nous interroger sur ce que nous attendons de l'État pour l'avenir et enfin interroger en profondeur l'efficacité de la dépense publique pour faire des économies, des vraies économies, non plus des rabots à l'aveugle, comme malheureusement on a pu le voir ou le connaître ces dernières décennies. Les collectivités territoriales, régions, départements, intercommunalités, mairies devront également participer à l'effort collectif, mais je l'ai dit dans des proportions acceptables. Nous n'accepterons pas, le gouvernement n'acceptera pas, la baisse des moyens de fonctionnement des communes de près de 20% par la DGF, votée cette semaine à l'initiative du Rassemblement national. À quelques semaines des élections municipales, nos élus locaux doivent disposer des moyens d'agir et de la visibilité qui va avec. Et donc, nous serons au rendez-vous. Les travaux se poursuivent, notamment avec les différents groupes politiques au Sénat. Ensuite, nous assumons des exceptions. Des économies d'un côté, des investissements de l'autre. Plusieurs ministères voient ainsi, malgré ce contexte budgétaire difficile, leurs crédits augmenter. En premier lieu, les armées. Un effort considérable qui va permettre à notre système de défense de changer de dimension. Le Parlement a déjà approuvé par un vote, à ma demande, il y a quelques semaines, le principe de cet effort. La situation internationale, on le voit bien, l'exige et commande de nous donner les moyens de notre autonomie et donc de notre liberté. C'est un engagement du président de la République que j'ai d'ailleurs l'honneur de mettre en œuvre comme ministre des Armées. Et cet engagement sera donc bien tenu, puisqu'une nouvelle loi de programmation militaire sera votée avant ce 14 juillet. Avec la sécurité extérieure, autre préoccupation majeure, la sécurité intérieure, la police la gendarmerie comme la justice ont besoin de crédits supplémentaires, notamment, entre autres, pour mieux lutter contre l'insécurité du quotidien, mais aussi le narcotrafic. Là encore, le Parlement a délibéré récemment. Enfin, il en va de même pour les ministères de l'Éducation nationale ou celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que c'est l'avenir du pays, tout simplement, qui peut être contre. C'est également le cas du ministère de la Transition écologique, qui occupait largement les débats, et qui verra notamment augmenter le fonds vert, bien connu des élus locaux, des acteurs de terrain, pour engager de nouveaux projets à l'échelle locale. C'est enfin également le cas pour nos Outre-mer, qui constituent une priorité, vous le savez, et en particulier les mesures qui participent au soutien à la Nouvelle-Calédonie dans un contexte particulier, mais aussi à la reconstruction de Mayotte, qui seront évidemment bien mises en œuvre. Je ne veux pas être trop long, je le suis déjà, mais d'autres mesures, corrections, ajustements de ce budget seront précisées par les ministres dans les heures et les jours qui vont venir. Pour résumer, un budget d'économie juste, un budget de protection et d'investissement, ce ne sont pas que des mots, un budget qui repousse la fiscalité déraisonnable ou déconnectée de la réalité économique, et au final un budget dont le déficit se réduit. Je l'avais dit, le déficit ne devra pas dépasser 5%. En 2025, les deux gouvernements successifs ont tenu le déficit à moins 5,4%, pardonnez-moi, et ce n'était pas facile, mais c'est fait. Cette année, nous serons à 5% de déficit. Nous y arriverons, et si la croissance est soutenue, et d'ailleurs la stabilité politique y contribue, ce sera sans doute peut-être moins. La France tient ses engagements. La France est gouvernée, la France doit rester crédible, dans un moment où, je l'avais dit dans cette cour lors de ma nomination par le président de la République, la vie politique intérieure ne peut ignorer et se décaler autant de la situation internationale et de ses nombreux dérèglements. Nous sommes la France, il faut le redire, il n'est pas question de se laisser aller au déclin sans réagir et sans tout tenter. Pour conclure, je voudrais vous dire à titre peut-être plus personnel que je ressens une réelle déception, mais aussi de l'inquiétude à voir une partie de la classe politique préférer le blocage au travail et une certaine tristesse à voir la vie parlementaire n'avoir fonctionné jusqu'au bout que pour un seul des deux textes budgétaires qui a été proposé au débat. J'ai voulu une approche nouvelle, je n'y renonce pas pour autant. Même si la vie des partis politiques et des appétits liés à la prochaine campagne présidentielle ont parfois eu raison du bon sens et de la responsabilité. La mienne en tout cas est d'aller au bout de la mission qui m'a été confiée. Donner un budget à la France, servir tout simplement son pays. Et pour tout cela, je vous en remercie.
Voilà, c'était l'intervention attendue de Sébastien Lecornu, Louis de Raguenel. On a le sentiment qu'il a voulu faire plaisir à beaucoup de monde quand on l'écoute là ce soir.
Alors, il y a deux camps qui sont principalement, qui cherchent à cibler. Le Parti Socialiste d'un côté, les Républicains de l'autre. Ce qu'on comprend, c'est que vraiment, il s'inscrit dans une logique de négociation pour obtenir ce qu'on appelle la non-censure. Alors, si on regarde qui, globalement, le Premier ministre a essayé de satisfaire. Alors, il y a un coup de barre à gauche parfois, un coup de barre à droite. Donc, à gauche, mesure de pouvoir d'achat, augmentation de la prime d'activité. C'était une demande du groupe Parti Socialiste avec Boris Vallaud et Olivier Faure. Ensuite, l'impôt sur le revenu qui n'augmentera pas. C'est une demande des groupes droite républicaine de Laurent Wauquiez, les députés Renaissance de Gabriel Attal et le groupe Liot. Ensuite, si vous regardez, on regarde le détail des mesures, les mesures sur la compétitivité des entreprises, là c'était une demande de Gabriel Attal. Abandon de la réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités, demande de Laurent Wauquiez. Abandon des mesures d'économie sur les allocations, les APL, ça c'était le groupe PS qui le demandait. On peut faire, si vous voulez, toute la liste, mais les bourses étudiantes qui sont maintenues, c'était une demande du Parti Socialiste. Toujours une demande du Parti Socialiste, la généralisation du repas universitaire à 1 euro. Voilà, donc on voit bien que l'objectif de Matignon, c'est de donner des points aux Républicains, de donner des points au Parti Socialiste, de sécuriser globalement les troupes macronistes, le groupe de Gabriel Attal, pour obtenir cette non-censure. Je pense pas qu'il espère avoir un vote du budget du Parti Socialiste et des Républicains. Je pense qu'on est vraiment dans l'objectif de la non-censure. Ce que cherche à faire Sébastien Lecornu, c'est rester Premier ministre. À noter aussi 5 exceptions aux baisses de dépenses.
5 exceptions importantes.
5 exceptions, voilà. Les armées, l'éducation nationale, la transition écologique, l'outre-mer et le ministère de l'Intérieur.
La police, bien sûr.
Le logement. Oui.
Alors, vous avez remarqué
Olivier de
la question, Olivier de, la question de 49.3 ou d'ordonnance.
On saura plus tard.
Ça n'a pas été évoqué.
C'est le pas suivant.
Alors qu'on n'a pas arrêté d'évoquer 49.3 ou ordonnance.
Évidemment, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, il y a un certain nombre de négociations qui ont eu lieu aujourd'hui, pas seulement avec le PS, vous avez bien compris. C'est allé tous azimuts. Là, ce soir, c'est dans les états-majors, c'est entre les mains des différents partis qui, de toute façon, ça a été négocié. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et effectivement, le temps qui va suivre, sans doute, c'est le 49-3. Alors, ça doit être adopté en Conseil des ministres. Donc, on attend de savoir s'il y aura un Conseil des ministres exceptionnel ce week-end. Ou si ça, on va attendre.
Ça n'a pas été évoqué.
Est-ce qu'ils attendent déjà la réaction de LR et du Parti Socialiste?
Alors, justement, je vous propose d'avoir une première réaction, si ça ne vous dérange pas. Nous sommes avec Sandrine Runel, me dit-on, députée PS du Rhône. Bonsoir, Sandrine Runel. Merci d'avoir accepté de réagir immédiatement à cette annonce effectuée par Sébastien Lecornu. Quelle est votre réaction, Sandrine Runel?
Alors, nous attendions un certain nombre d'annonces, hein, puisqu'il y a eu, comme il l'a rappelé, des discussions depuis des semaines, hein, depuis par ailleurs même des mois. En 2025, nous avions déjà commencé ces discussions. Et donc, nous avons effectivement un certain nombre d'annonces qui ont été faites ce soir par le Premier ministre et qui étaient des demandes du Parti socialiste. Donc là, nous allons, on va dire, analyser l'entièreté des mesures qui ont été énoncées. Mais aujourd'hui, nous pouvons en tout cas nous satisfaire d'une partie de ces annonces, notamment sur l'abattement, la préservation du pouvoir d'achat des retraités, mais aussi la prime d'activité. Et puis également le repas à 1 euro qui était une proposition de loi des députés socialistes. Donc voilà, nous allons, on va dire, analyser les points positifs et les points négatifs. Mais aujourd'hui, le Premier ministre répond à un certain nombre de nos demandes.
Bon, ça va dans le bon sens selon vous, pas Sandrine Runel? Quel est votre état d'esprit, même si vous allez échanger au sein de votre parti?
Vous allez voter.
Je n'irai pas jusqu'à « ça va dans le bon sens ». En tout cas, oui, c'est une direction qui est plus satisfaisante que les débats de ces derniers jours à l'Assemblée nationale, avec notamment des amendements qui ont été adoptés par le Rassemblement national qui réduisaient de plus de 5 milliards les dotations aux collectivités locales. Donc là, il a bien annoncé qu'un effort serait demandé aux collectivités locales, mais pas de là à mettre en danger leur fonctionnement. Donc oui, en tout cas, ça ne va pas dans le mauvais sens, on va dire ça comme ça.
Potentiellement voter.
C'est un mec de très à droite, ça.
Il m'a toujours... Alors, il n'y aura pas de vote hein, de ce budget, mais là, on annonce en tout cas, d'après ces mesures, un texte qui sera soumis en tout cas en Conseil des ministres, et puis par la suite, qui pourrait faire l'objet d'un 49-3, mais qui sera un texte en tout cas présenté en amont au 49-3, qui ne pourra pas être soumis au vote, hein, parce que la procédure ne le permettrait pas, mais en tout cas, un texte sur lequel on sera en capacité de se prononcer d'une manière un peu plus détournée.
Merci pour votre réaction immédiate, Sandrine Runel, députée PS du Rhône. Patrick Vignal, comment avez-vous trouvé Sébastien Lecornu?
Vous savez, il nous a surpris quand même, parce que depuis le début du plateau, on a tous dit où c'est un 49-3 avec ses avantages et ses inconvénients.
On n'a pas la réponse. Un 49-3 ou des ordonnances, on n'a pas la réponse.
Mais vous savez quoi? J'ai un seul mot. Chapeau l'artiste. Je conclue avec ça.
Oui. Bon, tour de table, Véronique Jacquier.
Non, mais on peut louer l'habileté effectivement de Sébastien Lecornu.
C'est ce qu'on avait évoqué.
Autant on peut dire que ce n'est pas à la hauteur des enjeux de ce qu'il faudrait pour la France. Enfin, voilà, ça fait quand même un peu bidouillage. On parle de pacte de non-censure, bien entendu.
On arrose tout le monde.
Moi, quand j'écoute un petit cadeau pour Laurent Wauquiez, un petit cadeau pour Gabriel Attal, j'ai plus l'impression que c'est un pacte de non-agression entre certains fauves. Voilà, non, enfin, sincèrement, habileté du Premier ministre d'un côté, mais fort désenchantement de l'autre. Mais pour notre pays, tout simplement.
Michel Fayad.
Il y aura un budget, Véronique, ce soir. Vous êtes heureuse.
Oui, il y aura un budget, mais enfin sincèrement,
un budget pour un budget, quoi.
Ouais, voilà. Mais c'est...
Un budget pour faire quoi? Pour en faire quoi? C'est toujours la question.
Michel Fayad.
Moi, je trouve qu'il est un spécialiste pour endormir les gens et embobiner les gens, honnêtement. Parce qu'il l'a fait au moment des Gilets jaunes, et là, il nous le refait le coup. Il l'avait fait contre donc, les Français de classe populaire, classe moyenne, que vous prétendiez représenté tout à l'heure contre les gens du 15e arrondissement de Paris.
Non, et de l'autre côté, Michel.
Je sais.
Je vous aime aussi. Vous et le 15e.
J'y habite plus.
Allez, on continue.
Mais aussi, du coup, là maintenant, c'est de la 3e, 4e République, comme on le disait. J'arrange avec la gauche, j'arrange avec la droite. C'est pathétique, en réalité. Vous savez, quand vous écoutez les discours du président Xi en Chine, il parle de siècles avant. Et nous, on est là à discuter de, vous voyez, de...
Oui, du jour du lendemain.
Exactement.
Et j'en profite pour vous dire que Jean-Luc Mélenchon a déjà réagi. Je vous lis la réaction sur X. Dommage que le cornu se sente obligé de mettre en cause les oppositions qui ne se soumettent pas. Pour le reste, il annonce que les impôts paieront les augmentations du salaire minimum. De nouveaux privilèges seront attribués aux propriétaires de logements à louer. Et l'entrée, voilà. Voilà ce que dit Monsieur Mélenchon. Olivier Benkemoun.
Oui, enfin bon, ce soir, ce qui est sûr, c'est qu'il a donné satisfaction au Parti Socialiste. Ça fait des mois et des mois que on négocie. Je peux vous dire que dans l'état-major du PS, on est assez heureux ce soir. Donc il n'y aura pas de censure. Voilà, ce qu'il faut retenir ce soir. Monsieur Le Cordu sera encore le Premier ministre de la France et il va se satisfaire. Et comme tous les députés du Bloc central vont se satisfaire que la France ait un budget.
Et je n'avais pas fini la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi.
Ça faisait pas terminer, oui, votre message.
Non, j'avais pas fini Jean-Luc Mélenchon. Et l'entrée en économie de guerre est présentée comme une bonne nouvelle. La contribution négative des riches n'augmentera pas. Et pas un mot sur les coupes budgétaires maintenues. Le théâtre d'ombre continue, déclaration de Jean-Luc Mélenchon, Patrick Vignal.
Vous voyez Thierry, ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur le logement. Moi je suis propriétaire de logements. Aujourd'hui je vais les vendre. Parce que entre un locataire qui peut ou pas payer le loyer, entre les cautions, entre le permis de louer, qui était une bonne idée, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui louaient des logements insalubres.
Le doublement de la taxe foncière.
Oui, alors, oui,
parce doublement. Parce qu'après qu'Emmanuel Macron nous ait vendu
Michel,
la suppression de la taxe foncière.
Vous l'aimez, mon Macron. Hein. Et en plus, si je rajoute le DPE, qui est en train de changer, parce qu'il y a des millions de logements, il y a 60 000 personnes qui demandent un logement social à Montpellier. Ouais. Donc moi, je me dis, à un moment donné... À un moment donné, on fait des lois, mais qui en fait, qui ne servent pas les gens. Moi, j'ai envie de loger des gens, mais c'est plus rentable de placer l'argent dans une banque que de loger des gens. Voilà ce qu'on a voté.
Merci, ce sera le mot de la fin de ce Punchline Weekend. Merci à David Brunet, David Pujol, Céline Génaud, Camille Guénon et Alexis Prince, Isabelle Piboulot pour l'info. Merci à la programmation. Tout de suite sur Europe 1, Stéphanie Demuru et sur CNews, l'excellent Philippe Devilliers. À demain, 12h. Belle soirée.
Et si vous commenciez l'année en faisant de confortables économies? Alors n'attendez plus. Pendant les soldes Cuir Center, profitez de réductions exceptionnelles sur une large sélection de canapés en cuir et bien sûr en tissu. En plus, chez Cuir Center, tous les canapés soldés sont disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des quantités disponibles. Date légale sur cuircenter.com.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut faire confiance à plus de 900 000 conducteurs de Dacia Sandero en France. Voiture la plus vendue aux particuliers, découvrez-la à partir de 13 290 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Disponible avec moteur, essence plus GPL boîte auto.
Offre réservée aux particuliers, valable du 1er au 31 janvier pour Dacia Sandero Essential SCE 65.9 hors option selon le tarif 2229.02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à data novembre 2025. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Boulanger. Ok, à moi. Tu préfères parler de toi uniquement à la troisième personne?
Ok.
Ou utiliser au moins un adjectif médiéval dans chacune de tes phrases?
Il préfère les soldes Boulanger, parbleu.
On préfère tous les soldes chez Boulanger. Des centaines de bons plans et le bon choix. Comme le lave-linge 8 kg Samsung fonction EcoBubble à 449 euros au lieu de 606,42. Et profitez de la livraison offerte. Boulanger, plaisir partagé. Jusqu'au 3 février, 15,42 euros d'éco-participation. Conditions boulanger.com.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 euros par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Là, vous entendez? Et vous vous dites 2026, les bonnes affaires Leroy Merlin reprennent. Et là, quand je dis que jusqu'au 3 février, le sol stratifié Forte Artens, résistant à l'eau, est à 8,99€ le mètre carré, soit 17,89€ la botte, là vous vous dites, cette nouvelle année, elle me botte.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Limité à 24 360 bottes sur l'ensemble des magasins en métropole.
Toyota.
Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota EcoCross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota EcoCross est à partir de seulement 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota EcoCross Dynamic LLD 37 30 000 km, premier loyer 3990 euros, réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Aldi. En direct de chez Aldi pour les offres spéciales week-end avec messieurs les deux rôtis de porc Saint-Clément-le-Boucher au prix discount de 7,69€ le kilo. Un commentaire?
À deux rôtis de porc français à ce prix-là, on peut dire que c'est une affaire bien ficelée.
Et vous, monsieur le champignon, à 1,79€ la barquette de 400 grammes?
À ce prix-là, le meilleur coin à champignons, c'est Aldi.
Merci et on vous retrouve en magasin jusqu'au dimanche 18 janvier.
À ce prix-là, nos produits peuvent se la raconter. Aldi, la meilleure qualité à prix discount.
4,48€ le kilo de champignons, deux rôtis d'environ 1,5 kg vendus en barquette. Origine et info sur aldi.fr.
On exclut mon itinéraire pour trouver les meilleures affaires pendant les soldes.
Non, mais faut arrêter de se compliquer la vie. Une seule destination, les soldes Conforama. C'est jusqu'à moins 70% avec la deuxième des marques. Et avec la carte Confo Plus, tu as moins 10% supplémentaire sur le meuble et la déco déjà soldés. Pourquoi aller ailleurs? Valable selon date des soldes et dans la limite des stocks.
On avait dit 2026, fini le superflu.
C'est le cas, Leapmotor T03 électrique.
Et la caméra de recul, le toit panoramique.
Et cette série, dès 139€ par mois et sans apport, pendant les portes ouvertes du 16 au 18 janvier.
Ah, waouh! Citadine électrique T03, c'est ça la bonne résolution. Leapmotor, lancez-vous. LLD 36 mois, 30 000 km, prime Certinergie 360€ déduite pour une T03 neuve hors option. Réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu'au 31 janvier si acceptation crédit part. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1.
Stéphanie Demureux.
Bienvenue sur Europe 1, ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour deux heures d'information et de décryptage, actualité chargée.